Je suis pas très très à l'aise, j'ai pas l'air très à l'aise comme ça. Ça va aller mieux avec les minutes qui vont passer. Mais c'est vrai que quand Nadine la semaine dernière m'a demandé si je voulais partager déjà comment j'ai rencontré le Seigneur, tout ça, et ce que j'ai vécu l'année dernière, qui était une année très spéciale pour moi. Sur le coup, j'ai paniqué, j'ai dit non, il n'y a pas moyen. J'ai essayé de trouver des excuses dans ma tête, genre non, je suis pas là, mamie, elle peut pas m'emmener ou un truc comme ça. Puis je me suis souvenue d'une parole qu'une amie m'a dite. Quand je suis rentrée d'Amsterdam, je l'ai revue et je lui ai raconté tout ce que j'ai fait là-bas et tout. Et elle me dit, donc je la connais depuis des années, on se connaît très très bien, je la connais depuis le CM1, et elle me dit, je sais pas si tu te rends compte, mais même avant Amsterdam, comment t'as changé, comment le Seigneur il t'a transformé, ce que t'as fait à Amsterdam, ça tu l'aurais, honnêtement, et c'est vrai, tu l'aurais jamais fait il y a quelques années. Et si on m'avait dit tout ce que j'ai pu faire là-bas, si on me l'avait dit, j'y aurais jamais cru. Donc bref, donc, je vais vous raconter comment j'ai donné ma vie au Seigneur, comment je l'ai rencontré personnellement. Puis après, je vous raconterai plus. Et c'est vrai qu'il faut que je fasse attention au temps, parce que ce que j'ai fait l'année dernière, je pourrais en parler des heures. Je suis en train de saouler ma famille avec ça, mes amis. J'essaye de plus en parler trop, parce qu'il arrive un moment, ça va saouler tout le monde. Du coup, il faut que je fasse attention au temps. Donc voilà, je m'appelle Déborah, j'ai 19 ans. Donc je suis née dans une famille que j'aime énormément. Honnêtement, j'ai vraiment pas à me plaindre de mon enfance. J'ai une enfance pour laquelle je suis très reconnaissante. Donc j'ai mon frère jumeau que vous connaissez, Florian, et ma grande sœur Pauline. Donc je suis née dans une famille à moitié chrétienne. Ma maman est chrétienne, mais pas mon papa, pas encore du moins. Ils sont mariés depuis des années maintenant. Ça, c'est pas tous les jours facile, mais c'est pas un problème. Enfin, bref. Du coup, j'ai toujours été à l'église avec ma maman, avec ma grand-mère que vous connaissez et que je remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Donc, j'ai toujours à l'église. On peut l'applaudir. Elle commence pas à pleurer, tu vas me faire pleurer. Du coup, j'ai toujours été à l'église très très jeune. J'ai donné mon cœur à Jésus très jeune. Donc c'était, pour moi c'était une évidence, Jésus était une évidence dans ma vie, mais il y avait un mais dans ma vie, un point noir, un point négatif, ce qui, je veux dire, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. C'est pas mon papa, parce que je vais parler de mon papa, je veux juste ouvrir une parenthèse, que mon papa aujourd'hui je l'aime de tout mon cœur, que notre relation s'est vraiment restaurée grâce à Dieu, mais c'est sa maladie en fait. Mon papa, il est bipolaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est maniaco-dépressif. C'est quelqu'un qui peut changer d'humeur du jour au lendemain. Donc, il y a un moment, il peut être très, un peu en euphorie, avec plein de projets, énormément d'énergie, et puis un père aimant, tout simplement. Et de l'autre côté, il peut être, le contraire, un peu dépressif ou violent. Et merci Seigneur, il n'a jamais été violent physiquement avec nous. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Voilà, qui a des pensées suicidaires, tout ça, la dépression en fait. Et donc mon frère, ma sœur et moi, on a tous une manière différente de nous protéger de ça, entre guillemets. Déjà pour moi, ça a été le pire choc quand mon père a pris sa retraite. Ma mère est retournée travailler, donc c'était complètement le contraire. Mon père était à la maison toute la journée, ma mère l'était moins. Du coup, c'est là que j'ai vraiment était face à sa maladie et que j'ai compris ce que c'était vraiment. Du coup, j'avais peur de lui. Honnêtement, il me faisait peur. Ses colères me faisaient peur. J'avais une assez mauvaise image du père. Et en fait, avoir quelqu'un de bipolaire à la maison, c'est comme avoir une bombe à retardement. Tu sais que ça va exploser, mais tu sais pas comment. Des fois, tu sais même pas pourquoi ça arrive. C'est comme ça. Donc voilà, on a tous réagi d'une manière différente. Et je pense que mon moyen d'échapper, mon moyen d'y échapper et de me protéger de ça, ça a été de me renfermer sur moi-même. Mon français, j'ai l'impression que je ne sais plus parler de français depuis que je suis rentrée d'Amsterdam, parce que je ne faisais que parler anglais. Du coup, j'ai... Bref. C'était vraiment de me renfermer sur moi-même. Je savais ce qui pouvait le mettre en colère, alors je faisais tout pour pas qu'il se fâche contre moi. Donc, je me suis vachement renfermée sur moi-même et de grandir dans un peu cette atmosphère, même si encore, je le redirai jamais assez, j'aime ma famille. C'était une atmosphère assez tendue parfois. Je pense que tout ça, et puis le fait de grandir, voilà, j'ai développé beaucoup d'angoisse. J'ai commencé à développer des tics. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu des mouvements qu'on fait sans se contrôler vraiment. Dieu m'en a guéri, j'en avais beaucoup, qui étaient vraiment dus à cette angoisse. Avec le temps, pareil, à cause de ces angoisses, je suis devenue très timide. Pour moi, dans ma vie, j'avais ma famille, mon groupe d'amis, et puis c'était tout. Devenir à l'église, c'était voilà, j'y allais avec ma grand-mère parce que je croyais en Dieu et que voilà, mais j'y allais pas par plaisir, parce que j'avais peur de rencontrer des gens. Rencontrer des gens me faisait peur. Du coup, avec le temps, ça s'est un peu empiré, ce qui fait qu'avant d'aller à l'école, souvent, j'avais mal au ventre. Alors que j'étais au Daniel, j'ai fait ma scolarité au Daniel. C'est le Daniel, c'est un petit cocon, honnêtement. Il n'y a pas à avoir peur de rien ni personne. Du coup, j'avais très très peur et j'avais un rêve depuis petite que pour moi, c'est vraiment Dieu qui l'a mis dans mon cœur. C'était d'être enseignante. Sauf qu'à cause de toutes ces peurs, à cause de cette timidité, je me suis dit, c'est mort, je ne suis même pas capable de... Je ne sais pas si Madame Ferrien s'en souvient, mais par exemple, en seconde, quand je vais présenter un exposé, quelque chose, il faut savoir que ma classe, on était quoi? On n'était même pas 10, que c'était mes amis, mais ça me faisait peur. La veille, je ne dormais pas de la nuit. J'avais peur de parler devant des gens. Et pour moi, ça, j'ai vraiment réalisé ça. Et ça a été un peu une claque. C'était un soir, en fait, c'était avant un TPE qu'il fallait que je présente devant un jury. C'était un soir, je pense, c'était comme une crise d'angoisse. Je suis devenue... J'avais tellement peur, je pleurais, je me souviens, je criais. Ma maman, elle m'a dit... Et elle n'a pas dit ça pour que je me sente mal ou quoi, mais elle m'a dit, si tu continues comme ça, je suis désolée. Et elle l'a dit, mais elle n'était pas bien. Tu vas finir par atterrir dans un hôpital psychiatrique. Et ça m'a marquée. Du coup, mes parents ne savaient pas comment réagir face à ça. Je ne sais pas si tu te souviens, mamie, ils t'ont appelée. Et ça, je t'en suis vraiment reconnaissante. Elle a prié pour moi. Elle m'a dit des versets bibliques qui m'ont fait du bien, qui m'ont calmée. Ça m'a... D'en parler, ça me touche un peu. Du coup, voilà, j'ai réalisé ça. Donc forcément, j'étais, pour moi, ma recherche, c'était vraiment la paix. J'avais besoin de paix parce que je ne pouvais plus continuer comme ça. Donc je voulais être enseignante. Pour moi, c'était mort parce que j'étais incapable de parler devant des gens. Du coup, quand les gens me demandaient, tu veux faire quoi plus tard, je disais que je ne savais pas parce que j'avais peur qu'ils se moquent de moi et qu'ils me disent, mais toi, tu es sérieuse, tu veux être enseignante, mais tu n'en es pas capable. Parce que c'était, pour moi, je n'en étais pas capable. Et sur le coup, oui, je ne pouvais pas. J'étais dans un état, j'étais comme dans une prison, en fait. Mais je me créais moi-même cette prison d'avoir peur des gens comme ça. Et un soir, je suis venue au tabernacle, donc ici. Et je me suis dit que j'avais envie d'oublier tout ce qu'il y avait autour de moi, j'avais envie d'oublier toutes ces peurs et tout. Et j'avais vraiment envie de juste regarder au Seigneur et j'ai juste commencé à le louer. Et j'ai ressenti une paix que encore maintenant je pourrais pas le décrire. Pour moi, c'est vraiment une paix qui vient du Seigneur, qui vient pas des circonstances, qui vient pas des gens qui m'entourent. C'est sa paix, c'est Jésus le Prince de paix. Et j'ai ressenti cette paix qui m'a... C'était comme... Je sais pas, c'est comme s'il me serrait dans ses bras. Et cette paix, ça m'a... Je me suis dit, mais c'est ça que je veux. C'est cette paix que je veux. C'est pas la paix que le monde offre d'une certaine manière. Du coup, voilà, je suis rentrée à la maison. La vie, elle continue. Mais je me suis dit que j'allais... Parce que ma foi, je la vivais plus à travers ce que les gens me disaient. Genre, on me disait Dieu ici, bah, j'y croyais. Avec ma grand-mère ou mes enseignants au Daniel... Mais ce n'était pas du tout quelque chose de personnel. Du coup, je me suis dit que j'avais envie d'apprendre à le connaître. Donc, j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps avec lui. J'ai commencé à lire la Bible. Pour moi, c'était un gros défi. Parce que la Bible, c'est super gros, écrit tout petit. Je me suis dit, c'est un peu... Enfin, avant, c'est ce que je pensais. Du coup, j'ai commencé à lire la Bible, à lui parler. Et en fait, j'ai lu dans Ésaïe 9, verset 6, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Donc il y a deux choses qui m'ont tout de suite marqué dans ce passage, c'est Prince de la paix et Père éternel. Donc Prince de la paix, pour moi, c'était une évidence, c'était que la paix, je pouvais que la trouver en lui. Et du coup, j'ai commencé vraiment à me réfugier en lui, et ça a vraiment été un processus d'apprendre à le connaître et de me réfugier en lui. Mais il y a un autre truc qui m'a un peu... C'était Père éternel. Si à ce moment-là, je devais donner une définition du Père, elle n'aurait pas été très... Ouais, sans plus quoi. Ça aurait été plus quelqu'un que je dois constamment encourager ou quelqu'un qui me fait peur. Je me souviens, ça a été la pire semaine de ma vie. Mon frère était parti dans un camp de vacances. Moi, je ne voulais pas y aller parce que j'avais peur des gens. Ma soeur venait de déménager. Ma maman, elle travaillait la journée. J'étais seule toute la maison avec mon papa. Et il s'était passé quelque chose dans ma famille qui avait énormément affecté mon papa. Ce qui fait que pendant une semaine, il était vraiment dans son état de dépression. Ça veut dire que quand je lui faisais à manger, il ne mangeait pas. Il dormait toute la journée. Quand il se réveillait, il déambulait partout dans la maison. Je lui parlais. La seule chose qui me répondait, il déversait juste sa haine sur cette situation et les personnes qui l'avaient touché. Bref. Enfin, c'était une semaine qui m'a... J'ai trouvé ça affreux. Et donc, ma vision du père, c'était pas quelque chose de très, très positif. C'était pas quelqu'un, si je pleurais, ben, c'est plus quelqu'un qui me dit « Allez, t'es grande, maintenant arrête de pleurer pour rien. » Donc voilà, j'avais pas une bonne image de lui. Et plus je prenais du temps, en fait, à lire sa parole, plus j'ai découvert... ça a pris du temps, hein, c'était vraiment un processus. Plus j'ai découvert... le père, en fait, le père, et c'est pour ça le séminaire de la semaine dernière m'a énormément touchée, parce que c'était sur le cœur du père, quoi. Le père, pas mon père, pas le père des autres, mais vraiment le Seigneur. Et il y a quelqu'un qui m'a souvent dit cette image l'année dernière. Il a dit, le Seigneur, on le sait, il est partout, mais quand tu vas dans le lieu où t'aimes bien passer du temps seul à juste à reprendre de l'énergie et tout, par exemple ma chambre, ou, enfin, je pense, moi j'ai un lieu où j'aime bien me détendre, c'est voilà ma chambre, il y en a, c'est dans la nature, bref, c'est le Seigneur, il est là et il t'accueille les bras grands ouverts, parce qu'il a envie de passer du temps avec toi, et tu as deux solutions, soit tu décides que voilà, tu l'ignores, ou soit tu vas sur ses genoux, tu le laisses t'enlacer, tu le laisses te dire combien il t'aime et combien... t'as pas besoin de faire d'efforts pour qu'il t'aime parce qu'il t'a aimé le premier, que t'as pas à promener des regards inquiets un peu partout parce qu'il est là, et que des paroles comme ça qui me font pleurer quand j'y pense, parce que c'est vraiment, j'ai encore du mal à mettre les mots sur qui est Dieu, et on peut mélanger toutes les langues du monde, il n'y aura jamais assez de mots pour décrire combien Dieu est merveilleux. Et du coup voilà, je lisais plus la Bible et j'ai eu deux versets que j'ai vraiment pris comme des promesses pour ma vie. C'est dans 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et pour moi, ça a été un peu comme une claque, parce que la timidité, c'est moi qui me disais je suis timide, et c'était un peu l'étiquette que je me mettais sur le front pour qu'on m'oublie, pour qu'on me laisse tranquille, pour être dans ma bulle, en fait, dans mon monde. Et là, ce qui est marqué... Dieu, il ne m'a pas donné un esprit de timidité, ça ne fait pas partie de mon identité, que je devais refuser cette parole. Et un autre, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, la première fois que je l'ai lu, j'en ai pleuré. Je me suis dit, j'ai un avenir. Parce que ma perspective de l'avenir, pour moi, c'était rien. Je me suis dit, j'ai même plus d'avenir. La seule chose que je veux faire dans ma vie, ce n'est pas possible à cause de toutes ces peurs. Et quand j'ai lu ça, ça a juste changé, ça a clairement changé ma vie, Dieu a clairement changé ma vie. Ça a été vraiment un processus, mais avec le temps, il me donne sa paix. Ça ne veut pas dire que maintenant j'ai plus peur, que je suis en mode wouhou. Ça veut juste dire que quand je sens la peur arriver, je veux juste regarder à lui et pas regarder à tout ce qui m'entoure. Et il me donne sa paix dans sa présence. Et, enfin voilà, c'est... Bref, donc c'est vraiment, il a vraiment restauré cette image du père que j'avais. Au jour d'aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'aime mon papa. Il m'a énormément manqué quand j'étais pas à la maison l'année dernière. C'est mon papa. Je vois même que Dieu est vraiment en train d'agir dans sa vie. il va de plus en plus à l'église, il lit de plus en plus sa Bible. Encore la semaine dernière, il m'a juste posé une question, comment tu fais toi pour pardonner? Là, j'ai commencé à lui sortir un peu des versets et comment j'ai appris à pardonner et comment j'apprends encore au jour d'aujourd'hui à pardonner. Donc voilà, il est vraiment en train de changer. Il est venu à mon baptême il y a 2 ans, je crois maintenant, je ne sais plus. Il est venu et il m'a dit qu'il était fier de moi. Du coup, ça, c'est... Voilà, je vois que Dieu agit vraiment dans sa vie. Donc voilà, j'ai eu mon bac en 2016. Et je me suis toujours dit qu'après le bac, je voulais vraiment consacrer quelques mois, une année, peu importe, je voulais consacrer du temps au Seigneur et faire quelque chose de plus pratique. Le lycée, les études, c'est bien, il faut étudier, c'est très très bien, mais au bout d'un moment, ça me saoulait un peu d'être toujours assis. J'avais besoin de quelque chose de plus pratique, de faire, d'agir. Et donc j'étais au Daniel, et en seconde, j'ai un de mes professeurs qui est revenu d'un voyage scolaire, donc avec une classe où ils font un échange en fait avec une école des Pays-Bas, et ils ont passé une nuit à Amsterdam dans une auberge de jeunesse chrétienne qui s'appelle Shelter, donc qui veut dire refuge en français. Donc il y a Amsterdam, il y en a deux, il y en a une qui est vraiment au milieu du quartier rouge et une qui est un peu plus éloignée. Et donc le but de ces auberges de jeunesse, c'est d'accueillir des gens du monde entier, de tout âge, de leur fournir un lit, tout ça, et de les évangéliser, en fait, de leur parler du Seigneur. On a des activités, tout ça. Et nous, en tant que volontaires, donc c'est ce que j'ai fait, on peut partir là-bas pour travailler. Donc on travaille gratuitement, on est volontaires, et notre but est d'évangéliser. Du coup, pour Amsterdam, c'est une idée que j'ai gardée longtemps en mémoire. Entre-temps, Dieu a un peu changé mes plans. Du coup, avant de partir, j'ai fait une formation intensive de 6 mois pour apprendre la langue des signes. C'est encore un autre sujet, je pourrais en parler des heures, mais il faut savoir qu'en France, 80% des sourds sont illettrés. Et du coup, c'est quelque chose qui me choque un peu. Et du coup, j'avais envie de l'apprendre pour plus tard développer l'enseignement, parce que l'enseignement n'est pas du tout adapté en France. Ce qui fait qu'ils n'ont pas trop accès aux églises, même la Bible, pour eux, c'est du charabia, les mots sont trop compliqués pour eux. Du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois, ça a été pareil, 6 mois extraordinaires où mes enseignants étaient sourds, j'ai appris énormément de choses. Ça m'a aussi aidé à plus m'ouvrir, parce qu'il faut savoir que la LSF, c'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire le théâtre, c'est un peu du théâtre, ils le disent eux-mêmes, il faut être très expressif, parce qu'il y a les gestes, mais il y a aussi le visage, donc c'est un peu du théâtre, c'est tout ce que je déteste faire, donc ça m'a vraiment aidé à sortir aussi un peu plus de ma bulle. Donc, et une semaine après, je suis partie à Amsterdam, donc la veille, j'ai réalisé que j'allais partir, j'ai commencé à pleurer, je n'avais pas réalisé avant. Et en fait, il faut savoir que là-bas, à Amsterdam, on vit avec 40 jeunes du monde entier, donc de 18 à 30 ans. On vit tous ensemble dans une grande maison. Le but est d'évangéliser, donc de parler aux gens. Et en fait, c'était tout ce qui me faisait peur dans la vie à un endroit. Et du coup, j'ai réalisé ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Donc voilà, j'ai commencé un peu à paniquer. Au final, j'y suis allée. Et donc, il va falloir que je fasse attention au temps maintenant. Ouais. Du coup, donc je vais essayer de vous expliquer clairement ce que c'est, parce que sinon je me perds dans les explications. Donc, il faut savoir que là-bas, il y a 3 axes principaux, et je vais juste vous expliquer les 3 axes, parce que le but aussi, c'est quand je suis partie, ils m'ont dit, Déborah, tu deviens une représentatrice du shelter en France, parce qu'il faut savoir que donc il y a 40 jeunes par saison, donc 3 mois, en sachant que moi je suis restée 9 mois là-bas, il y avait une Française quand je suis arrivée, elle est partie au bout de 2 mois, donc il y avait à peu près 2 Françaises en 9 mois, en sachant que ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas eu de français, et à côté des Allemands, par exemple, ils en ont 10 en 3 mois. Donc il y a un gros écart entre français et les autres nationalités, et c'est important qu'il y ait des Français, parce qu'en France, on voyage beaucoup, et il y avait énormément de guests français à évangéliser, justement. Donc, Le premier point, c'est pratiquer l'hospitalité. Et donc, en fait, on travaille tous les jours. On a un jour off par semaine. Les journées ne sont jamais pareilles. Ça change tout le temps. Il n'y a aucune stabilité à ce niveau-là. C'est toujours différent. Et donc, on a trois jobs où on fait un roulement comme ça. Donc, moi, je travaillais dans la plus petite auberge qui était à peu près 100 guests. L'autre qui était à 200 guests. Du coup, il y a la réception. Donc, la réception, c'est le premier... C'est le guest arrive, on l'accueille, c'est vraiment la première image que la personne va avoir de l'auberge. Ils savent que c'est une auberge chrétienne en général, c'est marqué sur internet partout, mais ils le lisent pas toujours. Donc souvent ils sont étonnés quand on leur dit, parce qu'on met tout de suite les choses au clair, on leur dit qu'on est une auberge, on croit en Jésus. Si vous avez des questions, on a des activités, sentez toujours libre de venir nous parler. Donc voilà, il y a la réception. Ensuite, il y a le café. Donc là, on prépare le petit-déj aux guests. On prépare le repas du soir. On les sert, en fait, tout simplement. Et il y a le dernier qui est CS. Et CS, en fait, c'est la personne qui supervise l'équipe de nettoyage, donc qu'on appelle les cleaners. Donc, parce que dans cette auberge, il y a comme deux ministères. Il y a d'un côté, il y a évangéliser donc les guests, les voyageurs qui viennent du monde entier, et évangéliser les cleaners qui, eux, sont trois par mois. Et en fait, ils font le ménage tous les jours dans l'hôtel en échange d'un lit, de nourriture. On leur demande une chose en arrivant, c'est qu'ils soient ouverts à notre foi, et nous aussi on veut savoir en quoi ils croient, en leurs croyances, ou on veut juste savoir leur vision du monde, tout ça. Et du coup on commence tous les matins une demi-heure de ce qu'on appelait la dévotion. Donc on lit la Bible ensemble, et le but c'est qu'en un mois ils aient vraiment les bases de notre foi sur Dieu le Père, sur Jésus, le péché, tout ça. Et donc, il faut savoir que tout le monde ne devient pas CS. Les managers, parce qu'on a aussi les managers qui, eux, sont payés pour leur job et qui ont fait des études et tout, ils prient vraiment pour ça, pour savoir qui c'est qui devrait devenir CS, qui c'est qui serait bien pour ce job. Et au bout de mon deuxième mois, c'est vraiment... Il y a un job que je ne voulais pas faire, c'était CS. Pour moi, c'était non. Et au bout de mon deuxième mois, ils viennent me voir, Déborah, ça te dirait de faire CS, on sait que pour toi, il te faut un peu du temps pour... enfin, on te connaît, on sait que pour toi, c'est un gros challenge, mais on te verrait bien le faire, on a prié pour ça. Du coup, quand ils m'ont dit ça, sur le coup, j'avais pas du tout envie de le faire. Après, j'y ai réfléchi à deux fois parce que je savais que c'est le Seigneur qui le voulait. Et en fait, CS, ça me faisait peur parce que il y a ce côté, j'avais une très mauvaise vision du leadership, en fait, de ce que c'est d'être j'aime pas ce mot supérieur, mais d'être quelqu'un qui supervise tout ça. J'avais une très mauvaise vision de ça. Et pour moi, ça voulait dire que je devais être une boss. Et je me suis dit, du haut de mon 1m50, ils vont jamais me prendre au sérieux. C'est pas mon genre de donner des ordres comme ça à des gens. Il faut savoir que les cleaners, ils ont entre 20 et 60 ans. Donc il y a des gens, ils pouvaient être mon grand-père et moi, entre guillemets, je devais leur dire ce qu'ils devaient faire et comment le faire. Et je me suis dit, moi, je suis personne pour faire ça. Pareil, la dévotion, j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir énormément de lacunes bibliques. Et je me suis dit, moi, comment je vais devoir répondre à leurs questions, je vais devoir leur expliquer clairement en anglais. Il faut savoir que l'anglais, c'est quelque chose qui... c'est l'anglais, quoi. Ça faisait 2 mois que j'étais là, donc ça allait au bout d'un moment. Quand il s'agissait d'être avec mes amis, tout ça, ça allait de parler anglais. Mais quand il s'agit d'être plus sérieuse et de vraiment parler de ma foi, là, l'anglais, ça devenait vraiment une barrière pour moi. Je me mettais moi-même des barrières. Donc, pour moi, sur le coup, j'avais pas du tout envie. Et puis, une soirée louange, en fait. Et la personne qui animait la soirée... d'un coup, elle a juste arrêté de chanter. Elle m'a regardée, elle a dit « Deb, j'ai quelque chose à dire ». Alors ça, c'est le truc que je déteste, qui me fait flipper. Il me dit « Non ». Et il me regarde et il me dit « Donc le Seigneur vient de me donner une parole pour toi. Il m'a montré combien pour toi c'était dur de juste t'exprimer, de parler anglais, que tu te mettais toi-même des barrières. » Alors que le Seigneur veut juste te dire qu'il te connaît, il veut t'utiliser, tu as juste à ouvrir ta bouche avec le Seigneur, il n'y a pas de barrière de langue, il connaît toutes les langues, il n'y a pas de problème avec ça. Il va te donner les mots, il va t'inspirer, alors tu n'as pas de souci pour ça. Donc il y a déjà ça, et après, un de mes managers qui me connaissait très bien m'a envoyé une parole, c'est dans Exode, quand le Seigneur demande à Moïse de libérer le peuple le peuple israélien d'Égypte. Donc là, je vais juste vous lire dans Exode 4. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc ça pour moi pareil, c'était, je me suis dit bon bah j'ai plus aucune excuse pour accepter. Donc voilà, j'ai eu mon coaching et tout. Et en fait pour moi Sia c'était vraiment une montagne et je suis persuadée que le Seigneur m'a demandé d'aller là-bas pour ça en fait. J'ai tellement appris et j'ai vu le Seigneur agir de manière tellement différente et de manière tellement puissante. Faut savoir, c'était spirituellement très fatigant parce que c'est des gens qui avaient vraiment une vision du monde complètement différente de la mienne, ce qui est bien dans un sens parce que ça me fait aussi réfléchir un peu plus et qui parfois remettaient vraiment ma foi en question. En général, donc c'était ils étaient trois, on était dans une salle et puis ils me posaient plein de questions, des questions que j'avais jamais pensé moi-même. Du coup, c'était pas facile. Physiquement, c'était très difficile parce qu'on devait faire tout ce qui était lit, tout ça. On devait faire 80 lits avant 1h30 de l'après-midi pour pouvoir accueillir les voyageurs. Donc, physiquement, c'était assez dur. Et émotionnellement, c'était très, très fatigant parce qu'il faut savoir que les cleaners, ils viennent en général à Amsterdam pour changer de vie. C'est des gens qui ont un passé très, très lourd et ils viennent pour changer de vie, pour recommencer quelque chose de nouveau à Amsterdam. Donc, en même temps, ils cherchent un emploi, ils cherchent un logement, ils cherchent des amis, tout ça. Donc, émotionnellement, c'était pas toujours facile. Mais en même temps, Dieu, il m'a... Genre, c'est vraiment pas moi, j'ai rien fait par mes propres forces, c'est vraiment Dieu qui a mis les bonnes personnes sur mon chemin et qui m'a donné les mots, en fait, que j'ai eu des conversations de malades que je pensais jamais que j'étais capable d'avoir. Et ouais, j'ai réalisé combien Dieu pouvait utiliser mes faiblesses. J'ai appris ce qu'était le leadership d'un point de vue biblique. C'est en fait le meilleur exemple, c'est Jésus. C'est quand il décide de laver les pieds des disciples, quand il montre combien il est humble. C'est pas quelqu'un qui donne des ordres, qui est en mode vas-y fais-toi, fais ça, si fais ça, et moi je vais aller boire un café. C'est vraiment quelqu'un qui sert. J'ai beaucoup appris à ce niveau-là, et j'ai encore du mal à mettre des mots dessus parce que c'est tellement ce que j'ai vécu là-bas. J'ai du mal à le retransmettre, mais c'était tellement intense. J'ai eu des conversations qui étaient très, très dures. Par exemple, une fois, j'ai un cleaner. On est en train de faire une chambre ensemble. Et d'un coup, il arrête et il me regarde et il commence à pleurer. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Un homme qui pleure, moi, ça me fait c'est un truc qui me fait flipper. J'ai rarement vu des hommes pleurer dans ma vie, faut le dire. Vous pleurez beaucoup moins que les femmes. Et ça m'a fait flipper. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il commence à me raconter. Il me dit, Deb, cet après-midi, en fait, je suis venue à Amsterdam parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a des très rares médecins. Mais en fait, j'ai un cancer qui est très, très rare. Et il y a un médecin à Amsterdam qui est un des seuls qui le connaît. Et cet après-midi, j'ai un examen et je vais savoir ce qu'il en est, tout ça. Et on a tous les deux, on a pleuré. C'est la première fois qu'il me disait ça. Et ça venait vraiment pas de moi parce que j'ai commencé à lui parler de la paix du Seigneur et de que Dieu il peut agir et il peut le guérir et que voilà, Dieu, même à travers cette épreuve, il veut se révéler à lui. Et là, donc voilà, c'était en juillet, ça, donc ça fait longtemps, donc on priait tous à fond pour lui. Et là, il y a un mois, il m'a envoyé un message, il me dit, Deb, c'est un miracle qui vient de se passer. J'arrive pas à comprendre comment et pourquoi, mais je n'ai plus rien, les cellules cancéreuses, elles ont complètement disparu dans mon corps. Et ça m'a donné des frissons comment Dieu il agit et comment il nous utilise. Et c'est vrai qu'au début pour moi c'était frustrant parce que je voyais pas des gens donner leur vie à Jésus comme ça. Mais j'ai réalisé qu'au final il nous utilisait pour vraiment planter des graines dans leur cœur et qu'après il allait les faire germer lui-même et qu'il allait continuer à les faire pousser, qu'ils allaient rencontrer d'autres personnes que le Seigneur allait utiliser. Ou une fois, c'était une femme d'Argentine. Donc en Argentine, ils sont catholiques, la plupart sont catholiques de génération en génération. Il n'y a pas cette relation, elle n'avait pas du tout cette relation personnelle avec le Seigneur, elle le disait elle-même. Et donc elle est restée un mois et au fil et à mesure des jours, on pouvait voir clairement un changement en elle. Elle avait cette joie qu'elle n'avait pas au début. Et un jour, on parle comme ça et elle me dit, Deb, parce qu'on avait une étagère avec plein de bibles de toutes les langues, elle me dit, ouais, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais j'ai pas volé, mais j'ai pris la Bible en espagnol et je la lis tous les jours maintenant. Et ça m'a touchée de voir ça. Et quand elle est partie, elle m'a serrée dans ses bras, elle m'a dit, Deb, elle a pleuré, elle m'a dit, Deb, continue de pleurer pour moi, de prier. Continue de prier, de me soutenir et merci pour tout ça. Donc, si c'était très difficile pour moi, c'était un challenge au quotidien, de me dépasser, de faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire et que clairement j'avais pas très envie de faire. Mais au final, d'avoir ce contact humain, d'avoir rencontré des gens qui m'ont vachement touchée et qui ont changé ma vision sur beaucoup de choses en positif. À être plus ouvert à l'autre, à avoir plus de compassion comme Jésus a de la compassion. Donc ça c'est un des points, c'est pratiquer l'hospitalité, donc c'est ce qu'on fait là-bas. Ensuite il y a la communauté, alors ça c'est quelque chose de très spécial, c'est vivre avec 40 jeunes du monde entier, en sachant que je suis restée 9 mois, donc j'ai vécu à peu près avec 100 personnes. C'est un truc, quand j'y pense, je me dis waouh. Et 100 personnes, ça paraît beaucoup, donc on peut se dire, il y en a que tu connaissais même pas et tout. Mais il y avait vraiment quelque chose de spécial là-bas, c'est qu'on venait tous pour le même but, pour servir le Seigneur. Et j'ai ressenti un amour là-bas que j'avais rarement ressenti ailleurs. C'est des gens qui m'ont... Parce que je suis arrivée au milieu d'une saison, donc c'est un groupe qui se connaissait déjà depuis un ou deux mois, et je suis arrivée au milieu et je me suis dit, comment je vais faire pour trouver ma place? Et j'ai ressenti un amour là-bas, que c'est des gens qui m'ont appris, en me montrant déjà l'amour que Dieu avait pour moi, en me le montrant plus concrètement que juste par des mots. Ils m'ont appris à aimer et ils m'ont appris à... Enfin, c'est le Seigneur qui nous apprend tout ça. Mais de voir que 40 jeunes dans une maison, on peut se dire c'est le gros n'importe quoi, parce que voilà, on est tous très différents, de cultures très différentes, on se demande comment ça peut marcher. Et pour moi, il n'y a que avec Jésus au centre que tout ça peut marcher, que les gens s'entendent. Ça ne veut pas dire que c'était tout rose et qu'il n'y avait pas de problème, mais une façon différente de se parler, parce qu'on partage la même foi. Et c'est vrai ça m'a dans un sens appris à pratiquer et à du moins essayer, parce que voilà, je reste humaine. 1 Corinthiens 13, quand ils disent l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, ne s'enfle pas d'orgueil. Il y a des matins, voilà, ça arrive qu'on se réveille d'un mauvais pied et on n'a juste pas envie de voir 40 personnes au petit-déj qui crient dans tous les sens. Je me levais le matin et je disais, Seigneur, donne-moi de la patience. Et je me répétais, l'amour est patient, l'amour est ci, l'amour est ça. Et au final, ça, parce que, genre, avec ma famille ou même avec mes amis que j'ai ici, si quelqu'un me saoule, bon, je le vois plus pendant 3 jours et puis ça va. Alors que là, t'étais obligé de te confronter. Enfin, ça va, c'est pas. Non, faut pas laisser passer ça. Mais t'étais obligé de te confronter à la personne et d'expliquer les choses. Et donc voilà, pour moi, les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'est des gens avec qui je suis encore en contact au jour d'aujourd'hui. Même certains qui sont partis quand ça faisait que 2 mois que j'étais là-bas. Il y en a une qui va venir me rendre visite la semaine prochaine, une américaine. Les Américains, honnêtement, c'est genre, j'aime trop les Américains. Ils ont un sarcasme et un humour que tout le monde ne supporte pas. Il y en a, les Allemands et les Américains, ça passait pas toujours parce que les Allemands, ils sont plus rigides. Mais je les aime trop. Je les aime trop, les Américains. Du coup, Et puis même l'encouragement qu'il y avait là-bas, je pouvais vraiment être moi-même si j'avais envie d'être fatiguée, me laisser être fatiguée. Si j'avais envie d'être juste dans un coin, de ne plus parler, me laisser être dans mon coin. Si j'avais envie de rigoler, me laisser rire. C'était vraiment là-bas, tu peux être toi-même. Et voilà, ça m'a remise en question sur beaucoup de mes relations que j'avais ici. Ouais, ça a remis en question juste ma relation avec ma famille, avec mes amis. Est-ce que j'ai cette patience avec eux? Est-ce que j'ai vraiment cet amour, l'amour agapé que Jésus a pour nous? Ça a remis beaucoup de choses en question pour moi. Au jour d'aujourd'hui, j'essaye voilà, d'être un peu plus souple avec les gens, d'avoir plus de compassion. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit en rentrant, quand je suis rentrée, « Oh, t'as l'air plus posée, plus patiente. » Donc c'est déjà un bon début. Et voilà, de se supporter parce qu'on est une même famille, on se bat pour la même chose, pour le royaume de Dieu. Et juste un exemple tout bête, quand il y avait un nous qui allait parler à un des voyageurs pour voilà, juste lui parler tout ça, bah, tant celui qui travaillait dans le café et qui devait laver des casseroles, et bah, il priait pour cette personne, pour que le Saint-Esprit vienne l'inspirer, tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça vachement fort. Et ensuite, il y a le troisième point, donc c'est le dernier, mais c'est le plus... Enfin, c'est le principe du shelter. Donc, c'est l'évangélisation. Faut savoir qu'à côté de tous les jobs qu'on a durant la journée, on a des activités le soir, généralement en binôme. Et donc, on a différentes activités qu'on propose aux guests. Par exemple, on a une activité qui était ma préférée, qui s'appelle Bible Meditation. Donc, si on traduit mot pour mot, Bible, méditation. Le titre est très, très, comment on dit, très, il y a des gens qui n'appréciaient pas le mot méditation, tout simplement, donc c'était très discuté. Mais au final, c'est une activité qui, les guests et les voyageurs, j'ai trouvé ça magnifique. Parfois, l'ouverture des gens et comment Dieu il guide les gens à cette activité, par exemple. C'est une activité où celui qui l'organise choisit un psaume ou quelque chose, et le but, c'est de méditer cette parole, mais pas de méditer genre en vidant ses chakras et en se vidant soi, mais en laissant le Saint-Esprit nous remplir. Et c'est vraiment une demi-heure où on lit la parole, mais on la lit, mais genre vraiment on la lit, c'est pas juste je la lis, mais c'est je la lis, je réfléchis. On donnait des stylos, on donnait des crayons, et il y a une fois cette activité, il y avait juste une femme qui est venue. Et on avait choisi un passage sur justement l'amour du Père. Et cette femme, elle a commencé à pleurer. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Et à la fin, on avait quand même un temps de discussion. Et là, elle nous raconte combien c'est dur pour elle de croire que Dieu est un Dieu d'amour. Parce qu'elle avait eu énormément de difficultés avec son père plus jeune. Et elle détestait son père. Elle nous disait « Je déteste mon père ». Là, moi, j'étais juste là pour supporter celle qui avait organisé tout ça, donc comme quoi Dieu fait bien les choses. Mais là, celle qui organise tout ça, elle a juste dit, Deb, elle peut te parler un peu de l'amour du Père, parce que c'est ce qu'elle a expérimenté avec son papa, avec le Seigneur et tout. Et on en a parlé, et au final, c'est une discussion qui a duré ça a duré 2 heures. Et c'était juste beau de voir cette femme qui était à la recherche de quelque chose et qui était ouverte à tout ça. Donc il faut savoir que parfois ça pouvait être un peu frustrant parce qu'on organisait des activités, les gens ne venaient pas forcément. Mais donc il y avait d'autres activités, il y avait des activités autour de la Bible où on devait vraiment discuter un sujet. Il y avait par exemple on regardait un film tous ensemble et après on essayait de faire un pont avec la parole et avec notre foi. On avait... celle-là, je la détestais. Je ne pouvais pas, c'était... Oh, j'essaie de l'éviter à chaque fois, mais bon, il n'y a pas le choix. C'est une soirée, c'est une fois toutes les 2 semaines, où on invite tous les voyageurs à avoir un repas gratuit. Nous, en tant que staff, on mange avec eux, mais il y en a deux qui sont censés organiser tout ça et animer la soirée, ce que je détestais faire, que j'ai dû faire 2 fois. Et en fait, on fait des jeux, on prépare un message biblique. Et c'est vrai que pour moi, c'était très très dur juste de parler devant des gens, donc une cinquantaine de personnes. Mais de parler devant des gens qui sont venus là juste parce que la nourriture est gratuite, qu'ils ont en général entre 18 et 25 ans et qui viennent à Amsterdam pour clairement s'amuser avec voilà, tout ce qui est coffee shop, tout ça. Et ça, c'est un truc qui me faisait peur. Parfois, oui, il faut le dire, ils se moquaient de nous, tout ça. Mais ça n'empêche que souvent, on pouvait voir qu'il y en a, ils se protégeaient derrière cette moquerie, mais tu sentais que ça les touchait. Parce qu'après, on parlait avec eux un peu plus intimement à table, et tu sentais que ça les avait touchés dans un sens. Donc, on avait plein de différentes activités comme ça. Et une qui n'était pas une activité, mais parfois on était sur le planning, au lieu de travailler à la réception ou CS, où on devait juste passer 6 heures dans le café à parler avec les gens. Ça, pareil, au début, pour moi, ça a été très difficile, mais j'ai eu des conversations. Quand j'y pense, je me dis, mais ça venait vraiment pas de moi. J'ai eu une conversation une fois avec un Italien qui venait à Amsterdam parce que Et le lendemain, il avait un vol pour partir en Inde parce qu'il était, il se disait pas bouddhiste, mais il était vraiment tout ce qui était méditation, réincarnation. Il était vraiment à fond dans tout ça. Et il était assis là au café et je vais lui parler. Et il me dit, dans une demi-heure, je dois m'en aller parce que j'ai une rencontre de yoga. Donc je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Et puis on commence à parler. Et puis il commence à me poser plein de questions sur ma foi, ce que j'ai trouvé merveilleux. Donc on a parlé, à la fin, au final, on a parlé plus de 2 heures. Il n'a pas été à son meeting. Et c'est lui qui, à chaque fois, je lui disais, mais enfin, si vous voulez, je peux partir. J'ai pas envie d'être, de m'imposer. Dites-moi si vous voulez aller à votre rencontre et tout. Il me disait, non, je continue à parler et tout. Et c'était une conversation qui, pour moi, était très difficile. Spirituellement, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose. J'avais un mal de crâne tout le long. Du moment où j'ai commencé à lui parler jusqu'à la fin, j'avais un mal de crâne que, quand on arrêtait de parler, je n'avais plus rien. Spirituellement, c'était très difficile. Et puis, on parlait de choses que je ne pensais pas pouvoir aborder, moi, avec mes connaissances bibliques et ma connaissance. Enfin, j'avais pas le sentiment d'avoir une très grande connaissance pour pouvoir parler de choses comme ça. Il me posait des questions. Enfin, c'était vraiment ça, ses croyances contre les miennes. C'était un peu un débat, mais très, très dans le respect, dans l'écoute. Du coup, c'était vachement intéressant. C'était une conversation géniale. Et au final, il est parti pour aller en Inde, mais que ce soit lui ou d'autres gens, souvent ils nous disent, quand je suis arrivée ici, que vous m'avez dit on est chrétien et tout, on s'est dit, oh, c'est quoi ça encore, c'est quoi cette secte, ou on a, ouais, ils avaient une mauvaise image. Et avant de partir, souvent ils nous disaient, on s'attendait pas à ce que vous soyez si ouvert, si jeune et dynamique, si accueillant, en fait, à nous. On a ressenti tellement d'amour en restant ici, parce que souvent c'était des gens qui voyageaient, ils faisaient des tours du monde, et souvent ils voyageaient seuls, ils avaient ce besoin de parler. Et il y a une chose que j'ai vraiment appris à Amsterdam, c'est de voir combien les gens, ils ont besoin d'être écoutés. On vit dans une société, je trouve, où on ne s'écoute plus beaucoup, et il y avait ce besoin d'être écouté, mais genre vraiment écouté, pas juste parler comme ça, mais de pouvoir exprimer ce qu'ils avaient sur le cœur. Que j'ai eu des conversations, mais qu'on dirait on était meilleurs amis. Enfin, c'était des trucs intimes avec certains gays, c'était vraiment des choses profondes. Et ce besoin que les gens, ils ont besoin d'être écoutés, m'a beaucoup touchée dans un sens. Et je préfère écouter que parler, du coup, moi, ça m'arrangeait bien. Et juste une dernière histoire qui m'a beaucoup touchée, c'est que donc on faisait ça à l'hôtel et tout, à l'auberge. Mais c'est que Dieu, il crée vraiment des situations, même en dehors de l'auberge. Une fois, il faut savoir, quand on vit avec 40 personnes, il n'y a aucune intimité. Trouver du temps personnel, seul, c'est très 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 dur. Il faut avoir énormément de discipline, parce qu'on s'entend tous très bien, donc c'est très très dur. Du coup, une fois, je suis sortie, j'ai été m'asseoir juste le bord d'un canal, pour lire ma Bible, et j'allais travailler dans 1 ou 2 heures. Du coup, j'avais mon t-shirt du shelter, en fait, le t-shirt qu'on portait pour travailler. Et derrière, il y a le verset du shelter, qui c'est psaume 91, verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et donc, je lisais ma Bible, j'avais juste ce t-shirt comme ça, et j'avais oublié que je l'avais en plus. Et là, j'ai une femme qui vient vers moi avec un visage. Elle avait l'air tellement contente de me voir que moi-même j'en étais étonnée. Elle me dit, parce que j'avais oublié que j'avais ce t-shirt, elle me dit, waouh, ce verset, c'est un de mes versets préférés. Et je suis tellement, j'avais juste besoin de lire ce verset ce matin. Et elle commence à s'asseoir à côté de moi, on commence à parler, et je sentais que sur son visage il y avait une certaine tristesse. Et qu'elle avait besoin de... Elle parlait énormément, elle avait vraiment besoin d'ouvrir son sac et de dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et elle m'a raconté donc qu'elle croyait en Jésus, mais qu'elle a été dans une église il y a quelques années où pour devenir membre, ils lui ont demandé de faire la liste de tous ses péchés. Et ça m'a... Waouh, je me suis dit non, c'est juste pas possible. Et justement, sur son visage, on pouvait lire la culpabilité que... C'était vraiment quelque chose de fort. Et le matin même, parce qu'on avait aussi des cours tous les lundis et mercredis, donc des cours qui allaient à se défendre s'il y a une agression à la réception, ce qui pouvait arriver souvent, ou le livre de Ruth par exemple. Et le matin même, j'avais eu vraiment un cours sur la liberté et Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés et pour nous enlever cette culpabilité. Et donc on a beaucoup parlé de ça. Et un truc tout bête, elle me disait, tu sais, le matin, quand je me réveille, je me sens tellement coupable parce que la première chose que je fais, c'est aller promener mon chien. Et je me suis dit, ouais, enfin, je lui ai dit, mais tu sais, moi, la première chose que je fais le matin quand je me lève, ben, c'est d'aller aux toilettes. Je veux dire, on a des obligations, mais je lui ai dit, tu sais, tu peux, ton chien, il a besoin de sortir. Et tu sais que tu peux aussi parler au Seigneur pendant que tu promènes ton chien. Et elle m'a dit, mais... C'est vrai, ça, personne ne me l'a jamais dit, mais moi, ça me paraissait normal dans un sens. Et elle me dit, mais t'as raison, et c'est pour ça que notre Dieu est si beau. Du coup, voilà, on a parlé comme ça pendant plusieurs minutes. Elle est partie, elle avait une joie. Elle m'a dit que j'étais comme un ange que le Seigneur a placé sur sa route. Et pour moi, c'est vraiment Dieu qui utilise n'importe quelle situation. Parfois, t'as même pas envie, t'as juste envie d'être tranquille, posé, d'échapper à la communauté pendant quelques minutes pour te ressourcer. Mais non, il place des gens vraiment sur ton chemin. Donc voilà, des histoires, des conversations comme ça, il y en a eu plein qui m'ont énormément touchée, qui m'ont vraiment ouvert plus aux gens et à vraiment laisser en fait le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est ses mots, c'est pas les miens, c'est pas moi, si je dois parler, je dirais des choses parfois qui sont même pas bibliques parce que voilà, je suis juste moi, humaine, j'ai mes problèmes, tout ça, et juste à laisser le Saint-Esprit m'utiliser, j'ai rien besoin de faire. Et je crois que ma plus grande leçon, entre guillemets, la plus grande chose que j'ai apprise là-bas, j'ai appris énormément de choses, c'était ouf pour moi, c'est d'accepter mes faiblesses. Après 6 mois, j'ai eu un gros gros moment de doute. J'ai eu un gros moment où je remettais tout en question, je remettais ma place là-bas en question. J'étais épuisée physiquement, j'étais sourde, je ne sais pas pourquoi, j'étais sourde pendant 2 mois d'une de mes oreilles. Je ne sais pas si Dieu il a voulu montrer ce que c'était d'être sourd parce que j'aimerais travailler les sourds, mais là, pour moi, c'était, pour la concentration, c'était assez difficile en anglais, tout ça. Et j'avais mon dos qui était complètement foutu, c'était assez physique parfois. J'étais épuisée émotionnellement. Pour plusieurs raisons, parce que voilà, on est tous ensemble, on doit souvent accueillir des nouvelles personnes qui veulent travailler au shelter, souvent les accueillir, dire au revoir, donc émotionnellement pour moi c'était assez dur parce que tu t'attaches à des gens, ils restent 2-3 mois, puis ils s'en vont, puis tu dois encore en accueillir. Et je me suis très vite retournée un peu l'ancienne de la maison parce que ça faisait 9 mois que j'étais là-bas. C'était très difficile, ça me prenait énormément d'énergie, les conversations que j'avais avec eux étaient très fortes, mais très spirituellement très très prenantes. Et le pire, c'était spirituellement, je me suis rendu compte que j'étais épuisée spirituellement parce que j'étais constamment dans l'action, je travaillais, je faisais souvent des heures supplémentaires quand ils avaient besoin d'aide, j'étais souvent à l'hôtel pour parler aux guests dans la communauté. J'étais souvent, et quand on est avec nos amis, on s'amuse, tout ça, mais j'étais aussi souvent à écouter les gens, leurs problèmes. Il y en a qui me mettaient, sans le vouloir, hein, quand on parlait, ils me mettaient sur mon dos, et puis moi, j'oubliais de rendre au Seigneur si je gardais tout pour moi. Donc j'étais épuisée et je me remettais vraiment en question ma place là-bas, mais aussi ma foi, pas le fait que je crois en Dieu. Pour moi, c'est une évidence en Jésus, tout ça, mais plus des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais je remettais en question l'amour de Dieu, je remettais en question la liberté qu'il nous donnait, parce que quand je faisais la dévotion avec les cleaners, ils me posaient, des fois ils se mettaient à trois contre moi, pas pour m'attaquer, mais pour me dire ça va pas dans ta foi, ça c'est nul, ça veut rien dire, ça c'est n'importe quoi. C'était des gens très scientifiques en plus, en général, moi, je suis pas du tout scientifique. Que eux-mêmes me faisaient douter parfois de ce que je croyais, et je prenais pas le temps en fait de me poser avec le Seigneur et de le laisser me ressourcer en fait, et de reprendre de l'énergie. Et en fait j'étais devenue comme Marthe quand Marthe accueille Jésus à la maison. Jésus s'assoit sur le canapé, la sœur à Marthe, Marie, elle s'assoit au pied de Jésus, elle écoute Jésus. Et Marthe, elle s'agite un peu dans tous les sens, voilà, elle fait à manger, tout ça. Et j'étais comme elle, en fait. Je voulais tellement faire que j'en faisais trop et que ça devenait trop pour moi. Et que j'en oubliais, c'est ce que Jésus dit, t'en as oublié le principal, la chose la plus nécessaire, qui est juste de se poser avec le Seigneur, de l'écouter, de prendre du temps avec lui. Et en soi, ce que Marthe, elle faisait, c'était pas mauvais, elle voulait servir Jésus. Mais voilà, ça, j'en ai réalisé que toutes ces choses, ça devenait une priorité dans ma vie et que Jésus n'était plus ma priorité à ce moment-là. Donc je me suis dispersée, éparpillée, que voilà, même mes pensées se sont éparpillées, que je remettais tout ça en question. Du coup, un jour, j'ai ma manageuse qui était aussi ma mentor, parce que quand on arrive là-bas, on nous attribue une personne, devient notre mentor pour nous suivre un peu psychologiquement et tout. Et j'étais CS et elle me demande comment ça va et tout. Et je dis, oh, tout va très très bien. Et là, je commence à pleurer. Genre, toutes les larmes de mon corps, et je pleure, et je dis, mais tu sais, je vais très très bien, elle me dit, parce que je suis genre à beaucoup garder, mais si je pleure pas beaucoup, mais quand je pleure, bah, ça veut dire qu'en général, il faut s'inquiéter, et elle me dit, mais Deb, tu pleures, mais c'est pas grave en fait, arrête de se sentir coupable de pleurer comme ça, des fois t'es faible, et ben c'est pas grave, c'est ok, t'es humaine, t'es comme nous tous, et ça montre combien t'as besoin du Seigneur, combien t'as besoin de lui. Du coup, ça a remis tout ça en question chez moi. Ils ont été super compréhensifs. Ils m'ont donné quelques jours en plus pour vraiment me reposer, me ressourcer. Les gens de la communauté, mes amis, ils étaient tellement présents. Ils ont tellement pris soin de moi. Et puis voilà, elle m'a rappelé ce verset qui veut tout dire. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et en fait, de juste... voilà, je suis humaine, j'ai mes faiblesses, et c'est pas grave, et ça montre combien j'ai besoin du Seigneur. Et quand je pense à toute cette année, Dieu, il m'a vraiment utilisée dans mes faiblesses, en fait. Ce qui était de parler aux gens, ce qui était de l'évangélisation, ça me faisait peur, tout ce qui était, en fait, d'être avec des gens, de vivre en communauté, tout ça, c'était ma pire faiblesse, les gens, entre guillemets, c'est bizarre de dire ça. Et Dieu, il a utilisé tout ça pour, au final, me faire grandir et pouvoir toucher d'autres personnes. Donc voilà. Ah oui, un autre truc que je trouve important. Que la foi, c'est comme un jardin. Et je suis en train de lire un livre d'Alain Auderset, c'est celui qui fait plein de BD, tout ça. Il a écrit deux livres qui s'appellent Rendez-vous dans la forêt. En fait, son atelier, il est juste au rez-de-chaussée de là où il habite. Mais tous les matins, il essaye de faire ce détour par la forêt pour passer du temps avec le Seigneur. Et il écrit dans son livre, quand un jardinier néglige son jardin, celui-ci devient du grand n'importe quoi, mauvaises herbes, déchets, plantes qui piquent. Et si c'était pareil avec notre jardin secret, chaque fois qu'on néglige les rendez-vous avec le jardinier divin, et après il dit le bien se cultive, mais le mal, pas besoin, il suffit de ne rien faire, tout finit par se détériorer. Et pour moi c'est vrai, c'est j'ai besoin de passer des moments d'intimité avec Jésus, c'est un besoin. Si je ne le fais pas, je le sens juste dans mes relations avec les autres, je le sens dans ce que je fais, je le ressens juste dans comment je suis. Et juste là-bas, j'ai vraiment appris à passer des moments de qualité avec Jésus, à juste me poser, à me taire 5 minutes, parce que je n'ai pas l'air comme ça, mais je peux parler énormément. Et quand je parle au Seigneur, c'est genre, je lui balance tous mes problèmes, tout ce qui me saoule et tout, et après, ben voilà, je fais ma vie. Alors que non, c'est une conversation, Et juste à me poser et à le laisser me parler, c'est quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc voilà. Donc je suis rentrée en décembre. J'avais très très peur de rentrer. Pour moi, Amsterdam, c'était mes amis qui sont devenus ma famille, mon église, mon travail, il y avait tout ce que j'aimais. J'ai senti que le Seigneur, voilà, j'aurais pu faire un an, j'en ai fait 9. À savoir qu'à la base, j'en faisais 4 et j'en ai fait 9. Enfin, je suis restée plus longtemps. J'ai senti que voilà, c'était le temps maintenant de partir. Ça devenait trop ma zone de confort dans un sens. Et du coup, l'année 2018, pour moi, elle est pleine de... C'est genre un gros point d'interrogation sur mon année. J'ai commencé l'année par prendre un temps de jeûne et prière, juste pour voilà, lui soumettre cette année. Ouais, lui soumettre tout simplement. Et en fait, il a changé tous mes plans. Et ça... Ouais, il a tout changé. J'avais pour but de faire la formation ISP à la rentrée prochaine, parce que voilà, maintenant, je le dis, j'aimerais être enseignante et c'est quelque chose qui reste dans mon cœur. Sauf que quand j'ai pris ce temps de jeûne et prière, j'ai senti qu'il m'appelait que son timing, il est différent du mien, et que pour l'instant, il m'appelait à autre chose. Et j'ai senti qu'il m'appelait à faire une école biblique. Et pour moi, ça venait pas vraiment de moi, parce que pour moi, je faisais Amsterdam, puis je reprends mes études, et puis c'est bon, maintenant, les années sabbatiques, ça va, ça... Enfin, j'aime trop, hein, je pourrais faire ça toute ma vie, mais non. Du coup, voilà, j'ai senti qu'il m'appelait à faire une école biblique, je me suis renseignée, ça coûte cher. Donc voilà, j'ai envoyé tous mes CV, tout ça, pour travailler, je suis prête à travailler, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu un... gros moment de doute, c'était la semaine dernière et le séminaire de Pierre Kanga m'a fait énormément de bien, mais j'ai eu un gros moment de doute où je me suis dit mais est-ce que je peux pas aller étudier comme tout le monde, en fait ça me fait peur de faire quelque chose de différent parce que mes amies elles vont rentrer en troisième année d'études, moi je suis encore là à faire ma petite vie, après c'est ce que le Seigneur me demande donc c'est pour lui. Mais j'ai eu un gros moment de doute de me dire, et si vraiment je ne trouve pas de travail, que je n'ai pas d'argent et que je ne peux pas faire cette formation, qu'est-ce que je vais faire pendant un an? Je ne vais encore pas rien faire, mais voilà. Et quand j'en parle à des membres de ma famille à qui j'avais déjà dit je vais partir à Amsterdam, ils m'ont clairement fait comprendre que ce n'était pas un but dans la vie, que ils ont pas, ils croient pas en Jésus, mais ils ne comprenaient pas ce que je voulais faire à Amsterdam. Même certaines de mes amies qui, je les juge pas du tout, hein, mais elles comprennent pas toujours mes décisions parce qu'elles se disent « Dave, quand est-ce que tu vas étudier ?» Mais j'ai envie d'étudier, mais apparemment, c'est encore une autre saison de ma vie où je dois apprendre à faire confiance au Seigneur. Je veux juste croire qu'il pourvoit dans ma vie, que je vais trouver un travail. En tout cas, je fais tout pour maintenant, c'est entre ses mains, j'ai envoyé tout ce qu'il fallait. Ouais, je veux juste lui faire confiance. Et justement, hier, je lisais dans Matthieu, un chapitre où Jésus il guérit une personne paralysée, il guérit une femme qui est atteinte de saignement pendant 12 ans et deux aveugles. Et dans ce chapitre, il y a le mot foi, la foi, qui ressort plusieurs fois. Et en fait, dans ce chapitre, par exemple, la femme, elle touche le vêtement de Jésus. Jésus sent quelque chose, donc il se retourne et il la guérit. Et les deux aveugles, Jésus leur demande d'abord, est-ce que vous croyez que je peux vous guérir? Et eux, ils lui répondent, oui, on croit que tu peux nous rendre la vue. Donc Jésus leur rend la vue. Et la réflexion que je me suis faite, c'est la foi, ça vient avant. C'est la foi, c'est le fondement de tout. Et c'est pas parce que... Pour l'instant, je vois rien, j'ai toujours pas de réponse à mes CV, même si ça fait quelques jours que je les ai envoyés et que je suis très impatiente. C'est pas parce qu'il répond pas tout de suite, dans l'immédiat, que je dois m'inquiéter, juste avoir la foi. Voilà, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et voilà, je veux juste lui faire confiance, je sais pas où je vais, en tout cas j'y vais, c'est tout. Lui faire confiance, c'est enfin de... Ouais, de faire ce qu'il veut vraiment pour ma vie, c'est pas la chose la plus facile parce qu'il casse un peu mes plans. Ça fait peur, mais...